Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
31 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, le culte du père de la révolution burkinabé est entretenu dans son pays. Lundi, lors d'une cérémonie à Ouagadougou, la première pierre d'un monument à sa mémoire a été posée en présence de plusieurs ministres du gouvernement. Un monument qui, selon le Comité international mémorial Thomas Sankara, permettra à tous ses héritiers d'avoir, je cite, « un lieu de rencontre, un lieu de ressourcement de l'idéal du président Sankara, afin de continuer à oser réinventer l'avenir ». Alors comment expliquer qu'aujourd'hui encore, l'ancien président continue d'incarner un certain idéal, un certain espoir pour une partie de la jeunesse africaine ? Pourquoi le mythe Sankara est-il toujours aussi vivant ? En tout cas, trois décennies après son assassinat, de nombreuses questions restent en suspens. Depuis trois ans, vous le savez, une enquête judiciaire est ouverte pour connaître la vérité sur sa mort. Et rappelez-vous, il y a quasiment un an, jour pour jour, lors de son déplacement à Ouagadougou, Emmanuel Macron, le président français, avait promis que tous les documents français concernant cet assassinat seraient déclassifiés, des documents qui n'ont pas encore été transmis à la justice burkinabé. Le mythe Sankara, on en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Prosper sur Facebook nous dit: Sankara est le Che Guevara de l'Afrique, il est et demeurera immortel dans nos mémoires. Ludovic, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez, comment ça va?
Eh ben, écoutez, très très bien, ça va très bien. Merci de nous appeler de Ouagadougou. Vous disiez au Standard qu'en 1987, l'année de son assassinat, vous aviez 17 ans et donc vous gardez des souvenirs très précis de cette période.
Oh non, erreur humanitaire, l'erreur est humaine. Je n'avais pas 17 ans. J'avais juste 13 ans.
Ah, 13 ans. Ah, autant pour moi.
13 ans,
ah, d'accord, autant pour moi. 13
ans. Très jeune.
Mais vous aviez 13 ans, d'accord. On vous écoute.
Oui. Ben, non, ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu en direct les événements qui ont émaillé son décès, parce que c'est jeudi autour de 16h qu'il y a eu les coups de feu, donc c'est comme si c'était hier. Ouais. Mais je passe cet épisode. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a un procès qui va se tenir et nous avons une chance incroyable. C'est que nous n'avons plus une justice aux ordres, parce que sous la gouvernance du président Rochman Christian Kabore, la justice est indépendante et nous savons qu'il y aura un procès en bonne et due forme. La seule difficulté, malgré qu'il y aura la déclassification des documents au niveau de la France et de bien d'autres pays pour mettre à la disposition de la justice des documents qui pourront permettre d'aller vers la vérité, les acteurs ne sont pas toujours, je dirais, honnêtes avec eux-mêmes. Les gens n'assument pas leurs responsabilités sur les actes qu'ils posent. Quand on prend l'exemple du procès du Putsch qui se tient actuellement,
oui,
les gens viennent démentir des choses. Donc,
mais enfin, Ludovic, oui, vous partez un peu dans tous les sens et ne parlons pas de tous les procès qui se déroulent en ce moment au Burkina Faso. Vous avez confiance, vous, dans la justice de votre pays pour que toute la lumière soit faite pour savoir qui a assassiné Thomas Sankara, sur l'ordre de qui? Vous pensez qu'un jour ou l'autre, nous connaîtrons la vérité?
Je suis sûr qu'on connaîtra la vérité si tous les acteurs jouent franc jeu. Mmh. Du côté de la justice, là, j'ai confiance en la justice. Maintenant, c'est les personnes qui seront incriminées qui ont le devoir de dire la vérité, c'est tout.
Mmh.
C'est tout.
Et aujourd'hui, pour vous, Ludovic, que représente Thomas Sankara?
Thomas Sankara représente une icône. Je dirais que Thomas Sankara est égal à Thomas Sankara. Je ne peux pas le comparer à quelqu'un d'autre.
Ah bon?
Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Sankara sans l'avoir connu. Mmh. Et les plus nombreux sont ceux qui ne l'ont pas connu. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ce que je veux dire, même, je lisais sur Facebook ce matin, un de mes amis, Péré, qui a dit que même les assassins de Sankara se réclament du sankarisme. Pour dire qu'aujourd'hui, l'idéal Sankara, elle dépasse les frontières du Burkina. L'idéal Sankara, c'est quelqu'un qui a incarné des valeurs.
Oui.
Le seul problème,
pour dépasser les frontières, il dépasse les frontières. Il y a Abel qui nous disait sur Facebook, il est burkinabé, il est à Bangui en Centrafrique. Il dit, j'ai vécu dans plusieurs pays en Afrique et je peux vous dire que la figure de Thomas Sankara a largement dépassé les frontières du Burkina Faso. Et Abel nous dit, c'est parce qu'il apportait la vision d'une Afrique indépendante de l'Occident, travailleuse et qui luttait contre l'impérialisme. Bonjour, qui avons-nous? Mouamadou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Bienvenue, on vous écoute. Que reste-t-il de Thomas Sankara aujourd'hui en 2018?
De Thomas Sankara, il reste beaucoup de choses. L'idéal de l'émancipation de la femme, la bonne gouvernance, le volet social de sa politique, les logements sociaux et la lutte contre la corruption. Donc ce sont des valeurs que, malheureusement, notre classe dirigeante aujourd'hui, depuis le régime Compaoré, nous avons perdu. C'est pourquoi Thomas Sankara reste un idéal, parce que il n'y a pas eu de remplacement en termes de bonne moralité de cette icône politique africaine-là. C'est pour ça que Thomas Sankara a une survivance aujourd'hui.
Ouais. Et en même temps, il n'a pas fait que du bien. Il a créé ces fameux comités de défense de la révolution qui ont commis des dérives.
Oui, tout à fait. C'était une révolution. Et toute révolution a son côté sombre. Il est vrai. Et Thomas Sankara lui-même, il a reconnu quelques temps avant sa disparition pour dire qu'il y a des choses qu'il fallait corriger dans le mouvement qu'il avait conduit. Mais maintenant, entre cette idée de correction-là et puis ce qui lui est advenu, on voit bien qu'on n'a pas entendu que Thomas Sankara aille au bout de sa politique de bien-être pour le peuple burkinabé et pour le peuple africain.
Oui, peut-être, parce qu'on ne lui a pas laissé le temps et la possibilité de le faire. Reste avec nous, Mouamadou. Abou est en Côte d'Ivoire. Bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour la jeunesse africaine, bonjour les filles.
Vous disiez au Standard que vous avez comme l'impression qu'on en fait un peu trop sur Thomas Sankara.
Juan Gomez, je pense que, à mon avis, Thomas Sankara a été un président africain, mais quant à le comparer à un mythe, il faut mettre un peu de bémol, je m'explique. Thomas Sankara lui-même, il est venu au pouvoir à l'effet d'un putsch. Moi, je suis juriste. Quand tu viens, quand tu menaces un ordre établi, donc tu es déjà dans l'illégalité. Mais c'est pas ça le problème. Le fond du problème, en Afrique, il faut qu'on arrête de idéaliser des nationalistes, des radicaux. L'Afrique n'a pas besoin de montrer, de se replier. Mmh. L'Afrique a besoin de proposer, de comprendre. La jeunesse africaine a besoin de comprendre le monde qui l'entoure, de proposer, d'apprendre. Voilà ce qu'il faut pour la jeunesse africaine.
Son discours parlait à la jeunesse de l'époque et visiblement parle encore aujourd'hui à la jeunesse de 2018, lorsqu'il dit il faut décoloniser les mentalités, lorsqu'il disait le Burkina Faso ne doit plus rembourser sa dette, lorsqu'il disait non au programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale, des bailleurs de fonds, du FMI, lorsqu'il disait il faut que le Burkina Faso soit véritablement indépendant vis-à-vis de la France. Voilà, c'était des propos qui des slogans peut-être pour certains, mais qui trouvaient un véritable écho et qui avait peut-être du sens à l'époque.
Oui, Juan, mais la thèse qu'on retient de Thomas Sankara, c'était un révolutionnaire. Mais la révolution dans le sens de pouvoir mener une rupture vis-à-vis une certaine colonisation ou etc. Ce que je veux dire, 31 ans après, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire Thomas Sankara, il est un président qui a marqué son histoire. Il a changé le nom de la Haute-Volta, qui est devenu Burkina Faso. Je ne sais pas très bien le changement de ce nom. Est-ce que ça a changé la vie des Burkinabés?
Alors, justement, je ne sais pas. Alors, j'ai interrompu Mouamadou pour vous donner la parole. Mouamadou, le fait que Thomas Sankara, effectivement, change le nom de votre pays, de la Haute-Volta, le pays a été nommé Burkina Faso, patrie des hommes intègres. Le changement de nom, c'est beaucoup déjà ou pas?
C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup en effet. Et si vous constatez ce qui s'est passé sous l'ère de Thomas Sankara, c'est que le Burkinabé était vraiment intègre. Et si vous voyez les actions citoyennes que les gens menaient, et que ce soit le sport ou que ce soit les politiques d'assainissement, les gens se levaient spontanément pour faire des politiques d'assainissement, le Burkinabé était vraiment intègre.
Oui.
La bataille du rail que Thomas Sankara a conduit, le Burkinabé était vraiment intègre.
D'accord, mais enfin, c'était une bataille, excusez-moi, menée d'une main de fer tout de même.
Oui, mais l'objectif c'était quoi? C'était d'amener le développement là où le développement n'était pas. Et depuis qu'il est parti, plus même pas un millimètre de rail n'a été posé au Burkina Faso.
Mm-hmm.
Ouais. Il était visionnaire dans ce sens-là.
Alors, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Comme à chaque fois, quand nous parlons de Thomas Sankara, ça suscite des réactions beaucoup au standard. Merci à vous, Mohamedou. Merci à Abou qui nous appelait de Côte d'Ivoire. 33 9 693 693 70. Bonjour Jean-Modeste.
Bonjour.
Alors, vous dites qu'il faut, vous souhaitez nous parler de l'aspect judiciaire du dossier Thomas Sankara. Vous dites qu'il faut absolument accéder aux archives françaises.
Tout à fait. Parce que c'est les seules archives qui sont capables de nous dire quand même toute la vérité. Parce que tous les acteurs, ceux qui ont été témoins, ou en tout cas concernés par l'histoire, chacun raconte les péripéties de sa mort à sa façon. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas au Burkina des archives suffisamment crédibles pour produire la vérité.
Et en même temps, Jean Modeste, à ce jour, il n'existe aucune preuve d'une implication française dans l'assassinat de Thomas Sankara.
Oui, mais nous savons très bien que jusqu'à une période assez récente, la France-Afrique ou les chefs d'État qui devaient aller justement faire allégeance ou en tout cas ou trouver leur salut par l'accompagnement de l'ancienne colonie, nous savons très bien que ça a été un des éléments qui a perturbé Thomas et qui a conduit probablement à son effacement.
Ouais. Donc j'imagine.
Pas la France, mais je dis que
il n'y a pas de preuve.
Il dérangeait.
Oui, il dérangeait. Ah oui, ça pour déranger François Mitterrand à l'époque président de la République française, il le dérangeait. Mais effectivement, il n'y a pas de preuve. Mais c'est vrai qu'il y a des doutes. Et d'où la promesse, l'engagement, tout du moins pris l'année dernière à Ouagadougou, l'engagement d'Emmanuel Macron de déclassifier les documents liés à cette époque du Burkina Faso. J'imagine que vous avez saluer cette initiative du président français.
Nous avons tous été contents. Je pense que la femme du défunt a salué cela, mais il n'en demeure pas moins que au niveau national, les juridictions qui sont chargées de s'en occuper n'ont pas forcément le bon gabarit pour conduire un jugement assez, assez précis, assez efficace.
Alors vous
parce
parliez...
que bon, c'est comme demander à un conducteur d'une 2 chevaux de conduire une Formule 1. Il y a des problèmes quand même de moyens, il y a des problèmes de qualification. Nous n'avons pas des juges de la trempe, par exemple, de Claudio Bonadio. Il aurait fallu quand même que peut-être l'enquête, enfin le jugement se fasse peut-être en France ou ailleurs.
Ah bon, alors vous dites un procès en France, je ne sais pas ce qu'en pense Casimir, bonjour.
Bonjour RFI.
Que pensez-vous des propos à l'instant de Jean Modeste qui nous dit la justice burkinabé n'est pas suffisamment compétente, n'a pas suffisamment de moyens pour aller jusqu'au bout d'un procès Sankara et qu'un tel procès doit se tenir en France?
Non, ça c'est encore le complexe de l'homme noir qui pense qu'il est toujours incapable de réaliser de bonnes choses. Je pense que notre justice est à mesure de juger le dossier Thomas Sankara. Le juge burkinabé a les compétences nécessaires pour le faire. Et vous voyez, Sankara demeure pour nous un mythe pour 2 raisons principales. 1. Sankara est un humain.
Attendez, on est en train de vous perdre. Le réseau est en train de se dégrader. Vous dites Sankara est un mythe parce que
1. Il est un humain et il a droit à la vie. Deuxièmement, il est l'espoir assassiné pour tous les Burkinabés et pour toute l'Afrique. Et rien que pour cela, nous pensons qu'il faut qu'on lui rende justice. Et je salue au passage tous les Burkinabés, tous ceux qui, de par le monde, sont épris de justice pour Thomas Sankara, de garder espoir. Un jour, la vérité va jaillir. Et ce jour-là, ça serait le triomphe de toute cette jeunesse qui ne fait que pleurer, pleurer et pleurer.
Oui. Celui-là qui Donc peu importe le temps qu'il faudra, mais vous êtes convaincu qu'un jour ou l'autre, nous connaîtrons la vérité. Cela fait 20 ans hein, que les premières procédures judiciaires ont été lancées. Le précédent auditeur, Jean Modès, faisait référence à la veuve de Thomas Sankara. C'est elle qui a même saisi l'ONU il y a de cela plus d'une quinzaine d'années. Et la veuve qui s'est exprimée lundi à l'occasion du 31e anniversaire de la mort de Thomas Sankara en disant « Nous espérons que l'ensemble de ces archives, en parlant des archives françaises, seront mises à la disposition du Burkina Faso. » Bonjour Salim Atou.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. J'entends déjà dire qu'il y aura justice pour Sankara, c'est notre souhait le plus absolu. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas les voies et les moyens par lesquels il y aura une justice pour Thomas Sankara. Parce qu'étant donné que les vrais commanditaires ne vivent pas au Burkina, un procès sans leur présence, je ne vois pas comment ça pourra aboutir. Donc, mais avec le temps, tant que les gens qui ont été comptables du régime qui a commandité le décès de Sankara seront au pouvoir en œuvre. Le jour où ils ne seront plus là, je sais qu'on mettra tout en œuvre pour aboutir à cette justice dont on y tient vraiment. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé et pourquoi on a tué ce mythe. Pour moi, il est un mythe et il le restera éternellement.
Que représente-t-il, Salim Atou, pour vous ?
Moi, pour moi, il représente la personne qui a donné la dignité et la fierté au voltaïque. À l'époque de la sous-région, M. Rouen, le voltaïque, c'était le meilleur. C'était quelqu'un qui n'existait pas. C'est à l'avènement de Sankara qu'on a retrouvé notre dignité et le respect que les gens nous devaient.
Quand vous dites le respect, pour ceux qui nous écoutent à travers le monde, ça veut dire quoi le respect ? Retrouver le respect ?
Je vous dis, le voltaïque, à l'époque, il n'était pas considéré. Il n'était pas considéré. Il a fallu que Sankara arrive pour que chacun sache où se trouve la Haute Volta et l'actuel Burkina. Pour que les gens aient les yeux braqués sur la Haute Volta.
D'accord. Le fait de tenir tête, par exemple, au président français de l'époque, François Hollande, c'est quelque chose qui vous a marqué. François Mitterrand, autant pour moi, merci à Michael Verne qui réalise l'émission. François Mitterrand, c'est quelque chose qui vous a marqué ?
Bon, tenir tête, c'est trop dire, Juan. Il s'est mis au même pied d'égalité que Mitterrand. Parce que les autres s'agenouillaient. Lui, il est président, Mitterrand est président. Il s'est mis à sa hauteur. Et il s'est adressé à lui en tant que collègue. Il n'a pas tenu tête. Et c'est ce qui a été mal compris. Et c'est ce qui lui a causé des problèmes. Et c'est dommage.
Bon.
C'est très dommage.
Salim Atou, je vous interromps. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Merci à vous de cette réaction. Isaac, probablement, dernier auditeur de ce matin sur l'antenne. Bonjour Isaac.
Bonjour Juan.
Le mythe de Sankara perdure, dites-vous, car ses combats se prolongent encore aujourd'hui.
Oui, le mythe de Sankara est toujours vivant et va même grandissant parce qu'il a dit des vérités qui sont toujours d'actualité aujourd'hui.
Lesquelles ?
Je cite par exemple son discours du 4 octobre à l'ONU, où il dit « Je viens vous apporter le salut fraternel d'un pays de 7 millions d'habitants qui refuse désormais de mourir dans l'ignorance, la faim et la soif. » Aujourd'hui, on en parle de lutte contre la pauvreté. Lui, il y a 130 ans, il avait déjà vu ça. Et il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a montré que seule la lutte libère, et il le dit bien, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Seule la lutte libère. On a lutté contre 27 ans de pouvoir de Blaise, on a vu, on a gagné.
Ouais. Tout à l'heure, un auditeur de Côte d'Ivoire disait peut-être qu'on en fait un peu trop sur Thomas Sankara. Il disait en substance qu'un révolutionnaire n'était pas forcément le meilleur exemple à donner à la jeunesse actuelle.
Écoutez, Juan, nous, on reconnaît dans la révolution des erreurs. C'est une erreur humaine. La seule tache noire de la révolution était les CDR. Mais ce que Sankara a fait en si peu de temps, aucun autre président n'a pu le faire.
C'est derrière les fameux comités de la Révolution. Merci beaucoup. De la Révolution. Je vous interromps, on rend l'antenne malheureusement, mais on aura l'occasion de reparler, pourquoi pas vendredi, dans la libre antenne de Thomas Sankara. Demain, la paix au Mali. 3 ans déjà que l'accord d'Alger a été signé. Sa mise en œuvre, vous le savez, est au point mort. Alors pour tenter de relancer le processus, en début de semaine, le gouvernement et les Nations Unies ont signé un